Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Wendel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. C'est la partie culture de l'émission avec l'écrivain Joël Dicker pour son roman très attendu L'énigme de la chambre 622 qui vient tout juste de paraître. Et puis, dans les indispensables, un anniversaire, celui du groupe Gorillaz, 20 ans déjà, et des jeux vidéo qui deviennent de nouveaux médias. Oui, en fin d'émission, le meilleur des portraits inattendus d'Hélène Manarino, aujourd'hui Danny Boone. Et Hélène Manarino qui est là avec nous. Bonjour Hélène.
Bonjour Philippe Wendel, bonjour à tous.
C'est votre journal de la culture qui commence par une nouvelle triste et surprenante, la fermeture d'un cinéma des Champs-Élysées.
Oui Philippe, l'UGC Georges V ferme définitivement ses portes, contrairement aux 2000 autres cinémas de France. Cinéma historique hein, qui venait de fêter ses 82 ans. Alors il était fermé depuis le 15 mars suite à la crise sanitaire. L'UGC Georges V va devoir rendre les clés le 30 juin au propriétaire des murs, Groupama. L'UGC était donc locataire et l'assureur souhaite transformer cet emplacement en hôtel. Selon les informations de nos confrères du Figaro, le cinéma ferme en échange d'indemnité. Alors, à l'époque, quand même, 40 cinémas existaient sur les Champs-Élysées. Aujourd'hui, la plus belle avenue du monde n'en compte plus que 3 avec la fermeture de l'UGC.
Oui, mais en même temps, il y a parfois des multiplex, mais quand même, ça fait vraiment beaucoup. 3-40, le rapport est assez dingo. Un cinéma qui ferme, mais de nouvelles dates de sortie pour des films.
Et oui, certains films ont vu leur date de sortie décalée suite à la crise sanitaire. D'autres sont sortis au cinéma quelques jours avant la fermeture et n'ont pas pu profiter pleinement de leur public. Alors ils vont pouvoir naître de nouveau avec la réouverture des cinémas le 22 juin prochain. C'est le cas notamment du film De Gaulle de Gabriel Le Bowman avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet. Il était sorti le 4 mars, soit 10 jours avant la fermeture des cinémas. Il avait réalisé 600 000 entrées lors de sa première sortie. De Gaulle ressortira donc le 22 juin sur plus de 600 écrans dans toute la France. Beau clin d'œil, puisque c'est bien le discours du 22 juin 1940 du général de Gaulle qui a été enregistré et que nous pouvons aujourd'hui encore entendre. L'appel du 18 juin n'avait pas été enregistré. La bonne épouse avec Juliette Binoche ressortira également. Alors, autre film, Divorce Club de Michael Youn avec Arnaud Ducré, François-Xavier de Maison, Caroline Anglade. Il devait sortir le 25 mars. Il sortira le 15 juillet prochain, c'est désormais officiel. Divorce Club qui a reçu cette année le prix de la presse des Globes au Festival de l'Alpe d'Huez, ainsi que le Grand Prix du jury.
Et puis Hélène, puisqu'on en est au festival, un mot sur Cannes 2020.
L'édition de cette année a été annulée. Néanmoins, Thierry Frémaux et Pierre Lescure ont tout de suite annoncé un festival de Cannes sous une forme différente. Alors, ils tenaient particulièrement à la sélection. La sélection officielle sera présentée aujourd'hui. Elle est composée de 56 films. Elle est issue de 2067 longs métrages que le festival a reçus cette année. Ils seront mis en avant lors d'autres festivals, par exemple, ainsi que dans les salles de cinéma, vous savez, avec ce fameux label Cannes 2020.
Et non, je regarde plus de 2000 films recalés, quel boulot de sélection. On passe à la littérature, Joseph Kessel qui entre dans la Pléiade.
Journaliste, romancier de plus de 80 romans, citons Le Lion, Les Cavaliers. Joseph Kessel, mort en 1979, rejoint donc la prestigieuse collection de Gallimard, alors qui a retenu une vingtaine de ses ouvrages. Ils seront présentés dans 2 volumes. Un album illustré consacré à Joseph Kessel sera offert aux acheteurs de 3 volumes de la Pléiade. Joseph Kessel rejoint donc à quelques mois d'intervalle son ami Romain Gary au Panthéon de la littérature.
Et puis un tout autre sujet, pardon, à présent, quand les fans de K-pop font planter une application pour lutter contre les violences aux États-Unis.
La K-pop, vous savez, c'est la musique coréenne.
Ce qu'on entend, c'est BTS que j'étais allé voir à Bercy Arena. C'est juste complètement dingue. Et ça irradie et ça inonde le monde entier. Pardon, je vous ai interrompu, Hélène.
Reprenons le fil de l'histoire. Et oui, la police de Dallas a appelé les citoyens américains à signaler les activités illégales des manifestants grâce à une application. Cependant, les fans de K-pop ont décidé d'inonder cette application de vidéos de leur groupe préféré. L'application a donc planté à cause d'une trop grande influence. Alors, les fans quand même, ils faisaient ça pour la bonne cause. Ils souhaitaient montrer leur mobilisation. Ils ont décidé d'arrêter temporairement leurs activités sur les réseaux sociaux afin de donner plus de visibilité au hashtag Black Lives Matter. Les artistes coréens sont extrêmement mobilisés sur ce sujet et dénoncent régulièrement le racisme qui persiste aux États-Unis.
On reste au chapitre de la musique avec Ed Sheeran qui prépare un live pour remercier le personnel soignant.
Les hommages continuent. Philippe, Ed Sheeran qui vient tout juste d'entamer une pause dans sa carrière, se produira tout de même, et il n'y a pas de démenti à ça, se produira tout de même.
Une pause comment?
Une pause, il arrête, pour rendre hommage au personnel soignant lors d'un grand concert en ligne. Mais oui, j'ai fait exprès, c'est pour vous Philippe, c'est un petit cadeau.
J'adore.
Alors, ça s'appelle Thank You. Ce grand concert, ça sera donc le 20 juin prochain à ses côtés Katy Perry, Amy Shark ou encore Kiss Urban.
Et puis on termine par une collaboration surprise.
Je vous laisse écouter ces deux artistes et on en parle après. Vous avez reconnu en premier Julian Peretta.
Et après Stromae.
Exactement, Stromae. Donc ils sont très amis dans la vie. Ils vont s'unir. Ils ont décidé de collaborer ensemble. Ils ont publié une photo sur les réseaux sociaux. Julian Peretta a affirmé que les fans pourront entendre leur travail probablement en août. Un peu de patience.
Merci donc. Beaucoup Hélène Manarino. À demain pour un nouveau journal de la culture.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on est très heureux d'accueillir Joël Dicker.
Bonjour Joël Dicker.
Bonjour.
Vous avez seulement 34 ans, je me suis renseigné, 35 le 16 juin, mais jusqu'à l'instant, dernier instant ultime, vous avez 34 ans pour dire que vous êtes, avec cet âge si jeune, connu dans le monde entier, pour votre deuxième roman, La Vérité sur l'affaire Harry Kéber, qui s'est vendu à près de 5 millions d'exemplaires sur la planète, qui est devenue une série internationale produite par la MGM, avec Patrick Dempsey, signé Jean-Jacques Hano. Je vais également citer le livre des Baltimore et La disparition de Stephanie Meyer. Autre actualité, votre nouveau roman, très attendu, il s'appelle L'énigme de la chambre 622. C'est aux éditions de Fallois. Je vais commencer par l'histoire, ou plutôt les histoires, quand il y en a plusieurs imbriquées, et je vous laisse terminer. En gros, le narrateur et écrivain, il s'appelle Joël, il habite à Genève. À la suite d'une déception amoureuse, il part se réfugier dans un palace d'une station de ski suisse à Verbier. Et là, il remarque que sa chambre, la 623, n'est pas collée à la 622, mais à la 621 bis. Et le mystère commence ici, parce qu'évidemment, il pose la question au concierge de l'hôtel. Et là, c'est à vous.
Et le concierge lui dit 621 bis parce que c'est comme ça, c'est l'hôtel qui a été fait comme ça, une erreur dans la construction. Mais l'écrivain, qui est un emmerdeur, dit je ne crois pas à cette réponse. Et il commence à gratter un peu et il se rend compte qu'il y avait bien une chambre 622. La chambre 621 bis remplace la chambre 622. Et la chambre 622 a été le théâtre d'un meurtre des années auparavant, meurtre jamais résolu. Et l'écrivain, avec une cliente de l'hôtel, va évidemment investiguer et remonter la piste de ce crime et découvrir ce qu'il s'est passé dans la chambre 622.
Alors je me dis, ce type-là a quand même beaucoup, beaucoup de chance qu'il s'appelle Joël comme vous. Cette rencontre, vous le dites, c'est Scarlett, c'est sa voisine de chambre de l'écrivain. Mais l'écrivain a une histoire d'amour ratée avec sa voisine de palier.
Oui.
Ça vous arrive souvent dans la vie?
Il emballe partout, sur le balcon, à l'hôtel. Non, mais, ça... non, mais c'est un écrivain qui ne sort pas beaucoup de chez lui.
Ouais.
Donc, si vous voulez, il est sa réalité, c'est son bureau, c'est son balcon. C'est-à-dire que le balcon sur lequel il sort, c'est sa fenêtre sur l'extérieur, ouais. Sur la réalité.
Et, non, mais ça, j'ai bien compris. Mais encore faut-il qu'il y ait sur le balcon d'à côté une jeune femme célibataire, oui. Et à son goût et qui... elle-même trouve l'écrivain à son goût.
Et les romans sont bien faits.
Ah oui, mais pas presque trop. Ça se passe en Suisse, vous êtes Suisse, un des pays les mieux faits au monde. Et pour la première fois, la Suisse est le décor d'un de vos romans, dans un milieu très, très fermé, de la banque. Pourquoi ce milieu de la banque? C'est un milieu que vous connaissez très bien ou pas du tout?
Non, que je ne connais pas. Pourquoi la banque? En fait, je travaille sans plan. Donc, il n'y a pas une immédiateté où je me dis il faut qu'il y ait une banque, il faut qu'il y ait ci ou ça. Je commence mon livre sans savoir très bien ce qui se passe. Et je suis assez vite arrivé dans une histoire où j'avais envie d'une histoire de transmission, une histoire avec une entreprise et un héritage, avec un fils biologique et un fils spirituel dont le président ne saurait pas très bien à qui confier les clés de la boîte. Et je me suis dit, mais cette entreprise, qu'est-ce qu'elle peut être? J'avais besoin d'une entreprise avec des enjeux financiers qui soit possédée par la même famille depuis des des siècles. Et assez vite, je me suis dit, une banque, c'est idéal, surtout les banques privées, parce qu'elles ont un fonctionnement qui leur est propre, dont on ne sait pas très bien comment il marche. Et avoir comme ça quelque chose d'un peu opaque et pas très limité, pour un écrivain, c'est génial, parce que vous en faites ce que vous voulez.
Et alors, vous avez travaillé pour décrire les us et coutumes à la manière de Tom Wolfe, ou alors, au contraire, vous avez inventé ?
Non, moi, j'invente. D'ailleurs, la banque, ce n'est pas un livre qui raconte vraiment le fonctionnement de la banque privée suisse. Hein. C'est la banque privée, là, dans ce roman, elle est vraiment là pour le décor. C'est le décor du livre. Ouais. Il s'y passe des choses liées à l'intrigue, des événements de l'intrigue. Mais c'est pas du tout, je ne raconte pas du tout comment ça fonctionne.
Et le service de contre-espionnage suisse, le P30 ou la P30, ça existe pour de vrai ou pas ?
Non, ça n'existe pas pour de vrai. Mais on ne va pas raconter trop le livre.
Non. Mais là, je peux raconter beaucoup, beaucoup plus loin si vraiment vous me cherchez. C'est un roman avec une intrigue très complexe, parfois il faut vous suivre. Exemple de phrase, écoutez bien cette phrase. Elle composa aussitôt, le type s'appelle Macaire. Macaire, c'est un prénom, sinon on ne comprend pas. Elle composa aussitôt le numéro de portable de Macaire et l'intercepta alors qu'il arrivait au 5e étage de l'hôtel, escorté par le concierge qui l'avait convaincu de l'emmener ouvrir la suite de Levovitch. Waouh, j'ai dû relire 3 fois pour comprendre. Et puis parfois, vous faites des flashbacks et des flash-forward. Oui. Un flashback, c'est on va en avant, mais flash-forward, c'est on va vous dire ce qui va se passer dans quelques temps.
Absolument.
Celui-ci m'a laissé perplexe, il est page 229. Genève, 15 ans plus tôt, avril, 3 mois après le grand week-end. Waouh, on est quand ?
On est 3 mois après le grand week-end.
Oui, mais 15 ans plus tôt.
15 ans plus tôt.
Je me suis dit, ce type est fou. Également, j'ai appris des expressions grâce à vous.
Oui.
Exemple, Macaire, c'est vous qui l'écrivez, Macaire décocha en regard noir à son cousin. Ah, ce sale petit lèche-vagin.
Ouais.
C'est une expression suisse ?
Non, je crois que c'est français.
J'avais jamais entendu.
C'est vrai ?
Non.
Les livres sont là pour ça, pour vous apprendre quelques bonnes expressions. Donc voilà, vous pourrez dire dans les dîners en ville, si quelqu'un vous fâche, vous pouvez dire « sale petit lèche-vagin ».
Oh oui,
c'est
vraiment.
Une expression.
Ouais, vraiment.
Facile à placer, ça.
Comment ? Oui, justement, c'est à vous maintenant. On marque une pause avec Joël Dicker. Allez-y, je vous laisse, Céline, allez-y.
Qui est notre invité avec qui on parle de son nouveau roman, L'énigme de la chambre 622. On y revient dans un court instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
L'énigme de la chambre 622, c'est le nouveau roman de Joël Dicker qui est avec nous pour en parler ce matin. Philippe, roman sorti aux éditions de Fallois.
Alors c'est un roman, c'est une fiction, mais de larges pages sont consacrées à votre éditeur, Bernard de Fallois. C'est édité chez de Fallois. Bernard de Fallois n'est plus de ce monde, c'était un personnage truculent. D'un mot, qui était Bernard de Fallois ?
Bernard de Fallois a été l'un des plus grands éditeurs de ces 50 dernières années. Un des monstres de l'édition française. Il a édité tout le monde, il a présidé au destin de nombreux groupes éditoriaux français. Et en 87, à sa retraite, il a décidé de monter sa maison. Sans plus aucun enjeu, sa carrière était faite. Il gardait son nom, son aura. Il a décidé de publier ses amis et les gens qu'il aimait bien. Et j'ai eu la chance de croiser son chemin en juillet 2011. Et ça a d'abord très mal commencé parce qu'il ne voulait pas publier mon premier roman, Les derniers jours de nos pères. Et donc, on a commencé sur des rapports un peu difficiles.
Voilà, juste un détail quand même dingue, parce que c'était un éditeur actif qui adorait son métier. Vous racontez qu'il appelait les libraires en personne.
Oui. Alors, quand il a fait le succès de Harry Quebert, qui est paru à la dernière minute, début juillet 2012, alors que le livre doit paraître au mois de septembre, donc rien n'est prêt. Et je lui dis, mais Bernard, comment est-ce que vous allez faire ? Il me dit, je vais téléphoner. Et il a téléphoné à quasiment tous les libraires de France, en tout cas des centaines de libraires. Il les appelait tous les jours en disant, bonjour, c'est de Fallois. Et j'en disais, de Fallois, le grand éditeur, oh, qu'est-ce qui se passe ? Il dit, je vous envoie un livre et j'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez. Et c'était ça sa grande force. C'est pas qu'il disait, c'est formidable, c'est extraordinaire. Et c'est pas qu'il imposait son point de vue, c'est qu'il arrivait à amener les gens avec lui en les impliquant. Et les libraires, grâce à ça, ont tous lu mon livre. En 2 mois, il a fait lire ce livre à des centaines de libraires. Et ces libraires se sentaient très concernés parce qu'ils disaient, mais tiens, ça c'est le livre que Bernard m'a confié à moi et j'ai dû le lire et je lui ai fait un rapport. Et donc il y avait ce rapport comme ça, c'était comme une équipe, hein. C'était assez impressionnant.
Non mais ce qui est complètement dingue, c'est d'aller au charbon lui-même, le temps que ça prend, même si vous faites 5 minutes avec un libraire mais que vous devez en appeler 500,
ouais.
C'est un temps complètement fou. Une autre fois, grande occasion, vous racontez, Bernard de Fallois donc vous invite dans un très grand restaurant parisien, le Divelec, au Champagne, et là, il vous annonce tout sourire.
Je lève mon verre au livre que je ne publierai pas.
Il ne vous publie pas.
Il ne me publie pas parce que je ne veux pas moi. C'est-à-dire que c'était juste avant Harry Quebert et lui voulait absolument publier Harry Quebert. Et moi, je disais, mais non, mais ça ne va pas marcher, ça ne marche pas. Mais si, vous verrez. Et puis finalement, pour me convaincre, il a fait de la psychologie à l'envers. Il m'a dit, très bien, non, je comprends, vous ne voulez pas. Vous, très bien, non. En tout cas, merci, ah, merci Joël, parce que j'ai aimé lire ce livre, merci. Et donc là, il m'emmène déjeuner, il lève sa verre de champagne comme ça et dit au livre que je ne publierai pas. Et là, je me suis dit, merde, peut-être que je fais quelque chose, je fais une connerie, peut-être que je devrais peut-être dire oui.
Un mot de la série La vérité sur l'affaire Harry Kéber, parce que vous en parlez, Spielberg était intéressé et il s'est fait retoquer par Bernard de Fallois. Mais ce qui est le plus dingue, c'est raconté pour quelle raison ?
Mais Bernard de Fallois avait raison, c'est-à-dire que Steven Spielberg et sa boîte voulaient acheter les droits. Mais Bernard disait, oui, mais attention, les grands studios, il faut être sûr qu'ils sont vraiment très intéressés, qu'ils vont se passionner pour le projet, qu'ils vont le faire. Et pour lui, la seule façon d'être certain que quelqu'un était passionné, c'était qu'il vienne à Paris déjeuner avec lui. Et comme personne n'a voulu venir le voir pour déjeuner à Paris, il a dit, eh bien non.
Voilà.
Vous n'êtes pas assez passionné.
On déjeune avec Spielberg ou rien. Alors, non seulement on apprend la vérité à la fin de votre livre, normal, c'est dans une enquête, c'est idiot de donner le résultat à page 22, mais on met même beaucoup de pages, les deux tiers du roman, pour apprendre qui a été tué dans cette énigme de la chambre 622. Et vous dites que vous-même, c'est ça que je trouve dingue, vous l'avez dit tout à l'heure, vous écrivez sans plan, vous-même, au début du roman, vous ne saviez pas qui allait mourir dans cette chambre.
Exactement. Donc j'ai commencé, j'écris ce livre comme vous le lisez.
Ouais.
Je commence avec une envie, un jour, un matin, dans la neige, un palace de montagne, il fait froid, dedans il fait chaud, on est bien. Un employé ouvre la porte, oh, un mort sur la moquette.
Ouais.
Et ça commence comme ça, c'était mon envie.
J'ai
Mais
compris
après,
ça.
Je me suis dit, qui meurt ?
Ouais.
J'ai encore pas de livre, j'ai pas de personnage, j'ai rien. Donc je commence à raconter cette histoire, je crée les personnages. Et à fur et à mesure que les personnages sont là, je me dis, est-ce que c'est lui ? Non, mais lui, je l'aime bien. Est-ce que c'est elle qui est morte ? Non, mais elle, je l'aime bien aussi. Alors peut-être que c'est lui. Et il me faut 300 pages pour finalement décider qui est la victime.
Oui, mais comment vous faites si vous vous rendez compte que ça ne tient pas par rapport à ce que vous avez raconté précédemment ? Parce qu'il faut une cohérence dans un polar.
Et ben, une fois que je suis à la page 300 et que je sais qui est mort, je reviens en arrière pour être bien sûr que tout fonctionne.
Ah ouais, comme on dit, vous êtes un grand malade. Il y a une partie de la critique. Ah non, j'ai oublié ça. Vous dites aussi que la vérité sur l'affaire Harry Kéber, quand vous avez commencé l'écriture, vous ne saviez pas s'il était coupable ou innocent.
Absolument. Mais pareil. Je fais toujours la même chose parce que si moi je ne sais pas, je me dis voilà, au moins je suis certain d'être pris par cette histoire. J'ai envie de savoir. Et je trouve que cette envie de savoir pour moi, c'est un bon moyen de savoir si ce livre marche, si ça va, si ce que je raconte a du sens.
Ouais. Y a une partie de la critique qui vous classe parmi les auteurs populaires et faciles. Le Monde n'a pas été très gentil. Vous étiez chez Ruquier samedi soir dans N'est pas couché. Ils ont passé une grande partie de leur temps d'antenne à vous parler de cette question de légitimité. Comment vivez-vous cet éternel procès ?
Ah, je le vis bien parce que là, vous parlez de deux critiques ou trois et pas de toutes les autres
C'est
qui
vrai.
Sont très bonnes.
Vous savez quoi ?
Et donc voilà, vous savez, quand vous vendez beaucoup, beaucoup de livres, il y a évidemment des gens qui aiment moins, et c'est leur droit aussi.
Et je vais quand même dire, parce que la presse vous encense normalement, vous avez fait la une de lire, Le Parisien vous a encensé, Le Figaro, qui a souvent la dent très très dure contre les écrivains, écrit ceci sur votre roman. Une fois ouvert ce pavé de presque 600 pages, on plonge dedans comme dans une série, les pages défilent, rythmé par des dialogues nerveux, liaisons secrètes, rendez-vous ratés, coup de théâtre, jeu de dupes et vie parallèle. Le suspense croustille à chaque page. On est tour à tour dépaysé, éreinté et captivé. Voilà, je voulais le dire. Aussi, je me demande toujours pourquoi le mot page-turner en France est péjoratif.
Mais je ne sais pas pourquoi, parce que c'est tout le but d'un livre, c'est
oui,
de le lire.
C'est qu'on tourne les pages plutôt qu'elles pèsent comme du plomb, tellement on s'emmerde et je suis poli. L'énigme de la chambre 622, c'est chez De Fallois Éditions. Merci beaucoup, Joël Dicker, d'avoir
Merci
été avec
vous.
Nous
Merci
en
beaucoup.
Direct sur Europe non confinée.
À suivre, nos indispensables avec les 20 ans du groupe Gorillaz et des jeux vidéo comme Animal Crossing ou Fortnite qui deviennent de nouveaux médias. On en parle juste après ça sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
C'est Joël Dicker qui est notre invité, Philippe, et avec lui, on va découvrir nos indispensables du jour. On démarre avec Angèle Châtelier.
Bonjour Angèle,
bonjour
avec
Philippe.
Vous. Avec vous, on va parler musique et on va fêter un anniversaire.
Et oui, les 20 ans de carrière de Gorillaz.
Now it's all in your head. Hey, happy, I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless. Not for long, the future is coming on. Hey, in a bag, I'm useless. Not for long, my future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on.
Emmené par Damon Albarn de Blur, côté musique, et Jimmy Hewlett, partie graphisme, Gorillaz, c'est Clint Eastwood. Ce tube sorti en 2001, oui, mais surtout ces personnages de 2D qui représentent dans chaque clip ou apparition les membres du groupe. Et pour leurs 20 ans, Gorillaz prépare un livre calendrier pour octobre, des pages de dessins, d'illustrations avec les personnages virtuels qui ont fait la notoriété du groupe.
Take it all out on your stride. In
Et depuis janvier, Gorillaz publie le projet Song Machine, une web-série en plusieurs épisodes avec à chaque fois une collaboration. La première, c'était avec Slaze, un duo de punk rock anglais, et Slotai, un rappeur britannique. Et dans la vidéo qui accompagne ce nouveau titre, ils sont dans un studio, ils composent et près d'eux sont incrustés les personnages virtuels de Gorillaz. Le deuxième épisode de ces Song Machine de Gorillaz, donc nouveau titre, hein, est sorti fin février. Il s'appelle Désolé, avec la chanteuse malienne Fatoumata Diawara. Et il a été tourné au lac de Côme en Italie.
J'adore ce titre, ouais. Et il compte sortir un nouveau titre comme ça tous les mois, Angèle.
Alors ce projet est censé s'étaler sur toute l'année 2020, oui. Une collaboration par mois, après Désolé en février. En mars, c'est avec Peter Hook qu'il publie la chanson Aries, planante, avec une ligne de basse fignolée et soignée. Forcément, Peter Hook est l'ancien bassiste de Joy Division.
Chanson qu'on va écouter en entier tout à l'heure, Angèle.
Oui, et puis en avril, l'un de ceux qui a pris part à cette série de collaborations décède, le batteur Tony Allen. C'était aussi le père spirituel, un ami de longue date de Damon Albarn, la tête pensante musicale de Gorillaz. Tous les deux, avec le rappeur Skepta, avaient enregistré un titre, How Far, qui a été publié sans clip, du coup, deux jours après la mort de Tony Allen, pour lui rendre hommage. To hustle for the money, give a change to your mother. Change them sheets, you got stains on the cover. Better look sharp, now your face on the cover. Who's that pressing on the buzzer? Better check the camera, you don't wanna get stuck up. You listen close, you can hear death around the corner. One wrong move and we're all gonna suffer. Oh yeah.
À propos de Tony Allen à la batterie, demain on recevra Sébastien Tellier. Tony Allen joue de la batterie exactement. Sur la ritournelle de Tellier. On imagine que Gorillaz prépare un nouvel album, Angèle.
Alors peut-être, mais c'est un format qu'il n'aime pas trop, celui de l'album. Finalement, toutes ces collaborations, ces Song Machine, c'est un album en soi. Mais sur leur compte Instagram, Gorillaz ont annoncé la sortie prochaine d'un EP, donc quelques nouveaux titres en plus de tous ces duos.
Et puis Joël Dicker, vous me disiez pendant la pause que vous étiez assez fan de Gorillaz.
Oui.
Pourquoi?
Bah, surtout parce que ça me rappelle 2001, j'avais 16 ans. Mmh. Mmh. Sur mon petit scooter, j'allais voir des filles. Donc voilà, ça me rappelle plein de trucs. Vous savez, c'est pas tant... Alors, c'est la musique, évidemment. Blur aussi. Mais j'ai aussi un rapport à la musique de ce que ça évoque comme époque de ma vie.
Ouais.
Et la musique, pour moi, est vraiment un des meilleurs moyens de me rappeler des moments, de me rappeler des périodes. Et donc, quand j'entends des chansons, souvent, ça me renvoie à plein de choses. Et ça, c'est important pour moi.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Les Indispensables continuent avec notre invité, Joël Dicker et Clément Le Saffre qui nous a rejoint, Philippe.
Bonjour Clément.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous êtes notre spécialiste jeux vidéo et ce matin, vous vouliez parler d'un jeu dont vous avez justement déjà parlé ici même.
Oui, mais vous allez voir, ça vaut le coup d'en reparler. Ce jeu, c'est Animal Crossing New Horizons. Alors je vous en avais dit beaucoup de bien à sa sortie. Animal Crossing, c'est un jeu de Nintendo dans lequel on crée son personnage tout petit, tout mignon, et on doit gérer une petite communauté sur une île déserte idyllique. C'est vraiment très calme, très relaxant, et c'est le carton du confinement. Depuis le 11 mars, il s'en est vendu 13 millions d'exemplaires dans le monde. C'est énorme, et c'est même toujours le jeu qui se vend le plus en France en ce moment.
Un succès fou donc, et je sais que si vous en reparlez, c'est qu'il y a plus que ça, et j'ai vu les images, c'est absolument stupéfiant, racontez.
Eh oui, parce qu'au-delà des ventes, Animal Crossing est devenu un vrai phénomène. Des créateurs se servent du jeu comme plateforme pour communiquer, en fait. Donc par exemple, Marc Jacobs et Valentino, les deux célèbres maisons de haute couture, ont recréé dans le jeu des vêtements emblématiques de leur collection. Et grâce à un QR code, les joueurs peuvent les télécharger, c'est gratuit, et aller ramasser donc des pommes ou pêcher le bar avec style. Mais ce n'est pas tout. Il y a carrément une émission de télévision réalisée directement dans Animal Crossing. Ça s'appelle Animal Talking. C'est Gary Wittast, un scénariste de film, qui a eu cette idée. Il a créé sur son île une sorte de late show à l'américaine. Vous savez, ces émissions de divertissement qui voient défiler des stars en promo dans la bonne humeur. Animal Talking a même son propre générique.
Live from the sun-kissed island of Kauai, it's Animal Talking. And now, because he doesn't have anything better to do, here's your host, Gary Witta.
Welcome to Animal Talking, the world's first fully virtual interactive celebrity talk show that is entirely staged, produced and broadcast from inside a video game.
Voilà, donc c'est en anglais, mais il faut imaginer, hein, c'est quand même assez dingue. Tout est fait via Animal Crossing. Dans sa maison, Gary Witta a mis en place un faux plateau de télé en achetant des objets dans le jeu. Il y a donc une caméra, un canapé pour les invités, un bureau pour le présentateur, des plantes vertes, bref, le décor parfait du late show. Le tout filmé à travers le jeu et diffusé en live sur Twitch.
Mais dans les late shows américains, il y a des invités, là, il fait comment ?
Eh ben, il y en a aussi. C'est ça qui est le plus fou. Ils doivent juste avoir le jeu, hein, pour se connecter et rejoindre l'île de Gary Witta. On voit donc leur avatar, l'avatar des invités, s'asseoir sur le canapé et on les entend parler grâce au chat vocal privé de l'île. Quelques célébrités se sont d'ailleurs prêtées au jeu. Par exemple, Elijah Wood, hein, l'acteur qui joue Frodon dans Le Seigneur des Anneaux. Et puis, ça permet aussi de faire des lives musicaux. Il y a quelques jours, c'était le rappeur T-Pain.
Ladies and gentlemen, performing live, T-Pain.
On a entendu les clics d'ordinateur parce que tout ça est géré. Hein. C'est-à-dire que T-Pain, il est chez lui, il chante et tout ça est géré par une petite régie. Et l'émission est devenue tellement populaire que lundi, c'était carrément Sting qui est publiquement un gros fan d'Animal Crossing. Il aime beaucoup le jeu. Et son acolyte Shaggy, qui était invité normalement de l'émission. Ils devaient présenter en live, chacun derrière sa Switch, leur nouveau single. Mais l'émission a été reportée pour donner de la place au mouvement Black Lives Matter.
Alors je l'ai dit, je l'ai vu, c'est absolument complètement dingue et saisissant. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives comme ça dans le jeu vidéo ?
Bah ça commence à devenir courant, oui. Hein, le jeu vidéo, ça devient un peu plus que ça. L'un des autres exemples marquants du confinement, c'est Fortnite. Hein, Fortnite, on n'arrête pas d'en parler. 250 millions de joueurs, c'est le jeu le plus populaire du moment. Un jeu de Battle Royale dans lequel il faut être le dernier survivant d'un groupe de 100 joueurs lâchés sur une île. Et depuis le début de la crise du coronavirus, il accueille plein d'événements de ce genre. Le plus dingue, vraiment, je vous assure, a eu lieu, c'était incroyable. Le 24 avril dernier, Travis Scott, autre rappeur américain, un superstar, a tenu un concert virtuel dans Fortnite. Une performance inédite enregistrée en amont par l'artiste et retranscrite dans le jeu par le biais d'un avatar géant sur la map, donc sur le terrain de jeu. 12 millions de joueurs en même temps. Alors rendez-vous compte, c'est quand même assez dingue. On fait danser leurs personnages en simultané pendant ce concert.
Merci beaucoup Clément Le Saffre. Réaction Joël Dicker.
C'est incroyable, c'est fou. Quel imaginaire, quel monde imaginaire incroyable.
Si on vous invite dans Animal Talking, vous irez.
Je viens tout de suite.
Mais moi aussi, mais on m'invite pas. Merci Clément Le Saffre.
À suivre, le meilleur des portraits inattendus d'Hélène Manarino avec aujourd'hui celui de Danny Boone sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Dernière partie de Culture Média, Philippe, et c'était Joël Dicker qui était notre invité ce matin.
Et c'est le moment de prendre congé avec vous, Joël Dicker, l'énigme de la chambre 622, votre roman paru aux éditions de Fallois. Merci d'avoir été avec nous en direct.
Merci beaucoup à vous, très belle
non
journée
confinée,
à tous.
Et je le rappelle, les librairies sont ouvertes, allez-y, courez-y en France, en Suisse et ailleurs. Merci encore d'avoir été avec
Merci.
Nous.
Et à présent, le meilleur des portraits inattendus d'Hélène Manarino, on écoute le portrait de Danny Boone sur Europe 1.
Alors Danny Boone, je suis là pour dévoiler des choses que l'on ne connaît pas forcément de vous. J'ai mené une longue enquête, mais comme tout ch'ti qui se respecte, on ne lâche rien. C'est votre cas à vous aussi. Alors, avec la discrétion, la pudeur de votre papa, la folie et l'humour de votre mère, Danny Boone, Danou, Dan parfois, comme le disait votre idole Raymond DeVos, vous adorez être pris en flagrant délire. Et il y en a, et il y en a eu. Avant de remonter le temps et de se balader dans votre enfance, faisons un constat aujourd'hui. Danny Boone, vous pourriez être le président de l'Union l'Union des hypochondriaques du monde. Vous avez le numéro personnel de votre médecin que vous appelez entre 20h30 et 6h. En cas d'épidémie, vous allez manger chez lui et vous y restez très très tard pour être à ses côtés. Et oui, au cas où, mais vous aimez surtout prendre soin des autres. Votre nouveau délire à vous, c'est le véganisme. Ça y est, vous êtes devenu végane grâce à un documentaire Netflix.
C'est vrai. Oui, c'est vrai.
Il faudrait que vous regardiez un documentaire sur le téléphone portable, puisque vous êtes accro, il ne vous lâche jamais. Alors vous en aviez deux, donc maintenant plus qu'un. Ouf, mais vous avez toujours gardé deux cartes SIM. En revanche, les écouteurs ne sont pas vos amis. Vous les changez pratiquement toutes les semaines. Un téléphone qui vous sert surtout à regarder les informations et à partager tous les articles les plus étranges à vos proches. Vous pouvez aussi les lire à haute voix, être au courant de tout. Tout le temps, voilà ce qui vous anime aussi. Fan de golf, très bon joueur, vous émerveillez devant les belles voitures, Danny Boone, mais vous avez toujours été marqué par l'émerveillement, chose que vous n'avez donc jamais perdue. Il vous arrive par exemple de rencontrer des gens connus, de demander un selfie et de le montrer à vos amis en étant très fier.
C'est vrai ?
Oui, ça, oui, bien sûr. Oui.
Avec qui vous avez demandé un selfie ?
J'ai fait un selfie avec Tiger Woods.
Ah oui. Tiger Woods, évidemment. Et le avec, grand golfeur.
Avec Zinedine Zidane.
Même pas connu.
C'est qui ? Âme d'enfant.
Avec Zidane aussi, oui.
Âme d'enfant, sûrement. Elle vous colle à la peau, ne serait-ce que dans votre pseudo qui vient de Daniel Boone, un explorateur, personnage de dessin animé. Mais Danny Boone, si on s'intéressait à vos premières fois. Votre premier film, à l'âge de 15 ans, il s'intitulait « Une nuit au musée », l'histoire d'un gardien de musée qui se baladait, qui voyait les objets et les œuvres prendre vie. Vous étiez au lycée.
Oui, c'était un dessin animé, c'était
en pâte à modeler.
On faisait de l'animation, image par image, ouais, avec une caméra Super 8. Ouais.
D'ailleurs, côté cinéma, vous aviez créé quelque chose d'assez atypique. Tous les matins, vous racontiez à vos amis du collège le film que vous aviez vu la veille. Ces amis qui vous enviaient beaucoup, car eux, ils n'avaient pas le droit. Sauf que, rien n'était vrai. Vous inventiez tout. Et vous aussi, vous n'aviez pas le droit de regarder les films.
Ah, c'est génial.
En fait, c'était sur la RTBF, qu'on captait la RTBF. On était à la frontière, ouais. Et papa, mes copains. Et on pouvait voir le début. Et mes parents disaient, allez au lit maintenant. Donc j'étais très frustré de ne pas voir la suite du film. Et je l'inventais en allant
c'est
me coucher.
Génial.
Et
parfois,
je la racontais le lendemain.
Et parfois, c'était mieux que le film, j'imagine.
Bah, quand on est enfant, c'est toujours mieux ce qu'on raconte.
Alors, tout le monde vous croyait, ou peut-être savait-il secrètement la réalité des choses, mais ils aimaient se laisser embarquer par l'univers de Danny. En revanche, vous aviez des petits stratégies j'aime pour regarder la télé, notamment ça.
Accours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider.
Tous les soirs, quand vous rentriez de l'école, vous vous arrêtiez devant une maison et vous colliez votre nez à la fenêtre pour regarder Goldorak.
Exactement.
Chez les gens,
oui.
Sans le son.
Sans le son.
On s'en fout.
Oui, on était comme ça, mais on s'est fait engueuler même.
Bah, je sais. Votre premier sketch intitulé « La brosse Evidy », un sketch sur la brosse à dents. Et vous étiez en quatrième.
Oh, oulala, wow. Mais comment vous avez... Mais je ne m'en rappelais même pas.
Ben, je suis là
mais
pour ça, vous rappeler
ça
votre
Ça revient
enfance.
Là. Oh merde.
Danny Boone est scotché.
Ah oui.
Alors évidemment, votre univers était assez secret. Votre monde, vous l'aimiez, vous le rêvez, le créez, l'envisagez. Au bout de votre rue, la rue Blaise Pascal, il y avait un arbre. Et c'était votre refuge, Danny Boone.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
C'est peut-être là que vous avez créé votre premier disque, Yogurt Collection. Il y avait 5 exemplaires enregistrés chez votre pote Philippe. Votre maman en a un, d'ailleurs. Alors je précise que vous êtes un très très bon musicien, très bon pianiste, guitariste, et peut-être que vous auriez rêvé d'être chanteur, d'ailleurs. Alors une enfance où vous avez tout tenté, tout expérimenté, le mime dans les galeries marchandes, le week-end, l'une de votre première grosse culture aussi, un bonhomme de neige de 3 mètres de haut que vous avez jeté dans la rivière à côté de chez vous.
Oui, c'est vrai.
Et 2 mois après, il flottait encore.
Mais c'est vrai. Oh, oh là là, c'est dingue, les souvenirs qui remontent. Mais c'est incroyable. C'est la ch'ti touch.
Oui, la ch'ti connection. Exactement. Mais rien ne vous faisait peur. Vous avez toujours vu les choses en grand, même dans votre première grande bêtise, lorsque vous avez décidé de descendre la pente du pont à côté de chez vous sur le capot d'une voiture.
Oui.
Malheureusement, votre main est passée sous le capot et vous vous êtes brisé le poignet. Mais Danny Boone, tout le monde savait que vous alliez partir un jour pour la première fois vivre votre rêve, être artiste. Même votre professeur d'espagnol, M. Marfalan, qui vous balançait des craies et des brosses en classe, le savait. Et on arrive à votre premier départ pour Paris, après avoir chanté dans les bars à tourner, à faire de la guitare, faire rire l'assemblée. Vous êtes arrivé à Paris, mais départ raté, puisqu'une déception amoureuse vous a fait repartir. Et il faut préciser que vous êtes un grand, grand romantique. Rien d'étonnant que votre chanson préférée du moment ce soit celle-ci.
J'aimerais tant te parler tendre un soir d'hiver au coin d'un feu, te dire des mots à pierre fendre, à fondre la banquise.
Vous êtes scotché.
Mais comment tu sais ça?
C'est quoi cette chanson?
C'est Julius Bocarn. C'est une chanson absolument magnifique. Chanson d'amour très belle.
Il faut la connaître. Hélène.
Romantique, sensible, rien ne peut vous émouvoir. Et puis il y a eu votre première fois au cours Simon, 3 mois, juste 3 mois. Et l'affaire était faite, vous avez donc pu profiter de votre QG, la cloche dans le 9e arrondissement, pour encore une fois refaire le monde, comme si c'était la première fois en écoutant ça. Charlélie Couture, alors Danny Boone, homme fidèle, même avec cette grande vie qui est la vôtre, vous n'oubliez pas votre Nord-Pas-de-Calais. Et comme le dit cette fameuse chanson, les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors, et le vôtre, il est resté intact. Hélène Manarino qui revient avec son portrait inattendu dès demain, Philippe.
Oui, demain nous serons dans Culture Média dès 9h avec Franck Hanez pour le lancement d'un nouveau magazine Feel Good, comme ça qu'on dit, il va s'appeler So Good. Et puis le chanteur, une figure, Sébastien Tellier pour son nouvel album J'en salive d'avance.
À demain Philippe Mandel, dans
à
un
demain,
instant
Céline.
C'est Anne Roumanoff sur Europe 1.